Chapitre 12. Le Seigneur de Kalgan. De tous les mondes qui composaient alors la galaxie, Kalgan était sans nul doute celui qui possédait l'histoire la plus exceptionnelle. Celle de la planète Terminus, par exemple, montrait une ascension quasi ininterrompue, celle de Trantor, autrefois capitale de la galaxie, un déclin quasi ininterrompu. Mais Kalgan... Kalgan avait tout d'abord connu la renommée en tant que monde réservé au plaisir, 2 siècles avant la naissance de Harry Seldon. C'était un monde de plaisir dans la mesure où il faisait du plaisir une industrie, et une industrie immensément rémunératrice. C'était également une industrie stable, la plus stable de toute la galaxie. À l'époque où s'effondra peu à peu la civilisation de la galaxie, la catastrophe n'eut que d'infimes répercussions sur Kalgan. Quels que fussent les bouleversements économiques et sociologiques des secteurs voisins, il subsistait toujours une élite. Et, de tout temps, la caractéristique d'une élite a été de posséder des loisirs comme récompense primordiale de sa propre condition. Kalgan était donc, à la satisfaction évidente de sa clientèle, perpétuellement au service des dandies efféminés de la cour impériale et de leurs dames flamboyantes et lascives. Des rudes seigneurs de la guerre qui dirigeaient d'une main de fer les mondes qu'ils avaient conquis par le sang et de leurs étahirs dévergondés et lubriques, des hommes d'affaires gras et prospères de la Fondation et de leurs maîtresses luxurieuses et perverses. Aucune discrimination, car tous étaient abondamment pourvus d'argent. Et puisque Kalgan servait tout le monde sans aucune distinction, puisque l'attrait qu'elle exerçait sur les privilégiés de tous les mondes ne faiblissait jamais, puisqu'elle avait la sagesse de ne jamais se mêler des visées politiques de personne, de ne mettre en doute la légitimité du pouvoir de quiconque, elle ne cessait de prospérer alors que tous les autres mondes déclinaient. Elle engraissait à vue d'œil quand tout le monde autour d'elle maigrissait à faire pitié. Il en était allé ainsi jusqu'à l'avènement du mulet. Alors Kalgan s'était écroulé à son tour, devant un conquérant inaccessible aux attraits du plaisir ou de toute autre activité, la conquête exceptée. À ses yeux, toutes les planètes se valaient, y compris Kalgan. Si bien que, pour une décennie, Kalgan se trouva jouer le rôle étrange de métropole régnant sur le plus grand empire ayant jamais existé depuis la fin de l'Empire galactique proprement dit. Puis, avec la mort du mulet, vint la chute aussi brutale que l'avait été l'ascension. La Fondation fit sécession, et à sa suite, la plus grande partie des dominions du mulet. 50 ans plus tard, il ne restait plus, tel un rêve d'opiomane, que le souvenir effarant de cette brève période de pouvoir. Kalgan ne s'en était jamais complètement remise. Jamais elle ne redeviendrait cet insouciant monde du plaisir qu'elle avait été, car le goût du pouvoir ne relâche jamais entièrement son emprise. Au lieu de cela, elle vécut sous la férule d'une série de personnages que la Fondation nommait les seigneurs de Kalgan, mais qui, à l'image du mulet, dont c'était le titre unique, se faisaient appeler premiers citoyens, tout en maintenant la fiction qu'ils étaient aussi des conquérants. L'actuel seigneur de Kalgan était en place depuis 5 mois. Il avait originellement accédé à ce poste en vertu de son grade d'amiral en chef de la flotte kalganienne, d'une part, et d'un déplorable manque de précaution de la part du précédent seigneur, d'autre part. Cependant, nul sur Kalgan n'était assez stupide pour vérifier de trop près et pendant trop longtemps la question de sa légitimité. Les événements de ce genre font partie de la fatalité, et il vaut mieux les accepter comme tels. Cependant, cette loi de la jungle qui permet aux plus aptes de survivre, si elle constitue une prime à la cruauté et au crime, permet parfois aux véritables talents de se manifester. Le seigneur Stettin possédait ainsi une compétence indéniable et n'était pas de ceux que l'on mène facilement par le bout du nez. La tâche n'était pas des plus faciles pour son éminence, le premier ministre, qui, avec une superbe impartialité, avait servi le précédent seigneur comme l'actuel, et qui, pour peu que le destin voulût lui prêter vie, servirait le suivant avec non moins d'honnêteté. La tâche n'était pas plus facile pour Dame Kalia, qui était pour Stettine plus qu'une amie, et cependant moins qu'une épouse. Ce soir-là, les trois personnages en question se trouvaient réunis, seuls dans les appartements privés du seigneur Stettine. Le premier citoyen, massif et resplendissant dans l'uniforme d'amiral qu'il affectionnait, du fond du fauteuil sans rembourrage sur lequel il était assis, aussi raide que le plastique sur lequel il s'appuyait, releva un front soucieux. Lev Mérus, son premier ministre, était assis en face de lui. Il avait pour l'heure un regard absent, et ses doigts, longs et nerveux, tapotaient machinalement et en rythme l'interminable pli qui, partant de la racine de son long nez busqué, suivait ses joues caves pour aboutir non loin de la pointe de son menton qui s'agrémentait, selon sa fantaisie, d'une barbiche grisonnante. Dame Kalia avait disposé avec art les courbes de sa gracieuse personne sur l'épaisse garniture de fourrure qui recouvrait le divan en plastimousse, et ses lèvres pleines tremblaient quelque peu en formant une moue inconsciente.
« Monsieur, » dit Mérus, car quel autre titre aurait pu convenir à un seigneur qui avait adopté le style premier citoyen ?« Vous ne semblez pas partager mes vues sur la continuité de l'histoire. Votre propre vie, avec ses extraordinaires bouleversements, vous incline à penser que le cours de la civilisation peut être sujet au même changement soudain. Mais il n'en est rien. »
Le mulet a fait la preuve du contraire. Mais qui serait capable de marcher sur ses traces? D'ailleurs, lui non plus n'a pas entièrement réussi.
Minou,
gémit tout à coup Dame Kalia avant de paraître vouloir disparaître sous ses fourrures devant le geste passablement irrité que lui adressa aussitôt le premier citoyen.
Ne m'interromps pas, Kalia.
Mérus, l'inaction me pèse. Mon prédécesseur a passé sa vie à faire de la flotte un outil parfaitement rodé, qui n'a pas son pareil dans la galaxie. Il est mort sans même avoir eu l'occasion de s'en servir. Dois-je continuer sur ces traces, moi, un amiral de la flotte? Combien faudra-t-il de temps encore avant que la rouille ne ronge les rouages de cet outil formidable? Actuellement, notre flotte constitue une charge écrasante pour le trésor. Et elle ne nous rapporte strictement rien. Ces officiers sont avides de conquêtes, ces hommes de butin. Kalgan tout entière aspire à retrouver l'Empire et son cortège de gloire. Est-ce donc si difficile à comprendre?
Derrière ces paroles, je discerne vos raisons. Les conquêtes, les butins, la gloire, voilà qui rend assurément la victoire enivrante.
Mais pour les obtenir, il faut souvent courir des risques et toujours accepter des besognes déplaisantes de nature à dégriser les plus enthousiastes. Les premiers succès sont souvent éphémères, et tous ceux qui ont attaqué la fondation au cours de l'histoire l'ont fait à leur détriment. Le mulet lui-même aurait fait preuve de sagesse en limitant ses ambitions. Les yeux bleus et singulièrement inexpressifs de Dame Kalia s'était empli de larmes. C'est à peine si Minou l'avait remarqué au cours des derniers jours. Et voilà que ce soir, alors que Minou lui avait promis qu'il serait enfin tout à elle, cet homme horrible, maigre et grisonnant, qui la regardait toujours comme si elle était transparente, avait imposé son odieuse présence. Et Minou qui se laissait faire. Elle n'osait pas ouvrir la bouche, redoutant même les conséquences du sanglot qu'elle avait laissé échapper. Mais Stettine s'exprimait maintenant de cette voix dure et impatiente qui lui faisait horreur.
« Vous êtes l'esclave d'un passé révolu. La Fondation a certes pris de l'importance en termes d'espace et de population. Elle étend sa trame chaque jour davantage. Mais cette trame est des plus lâches. Il suffirait d'un souffle pour la déchirer. C'est uniquement la force d'inertie qui maintient sa cohésion. Une force d'inertie que je suis assez puissant pour réduire à néant.
Vous êtes obnubilé par le souvenir des jours anciens où la Fondation était la seule à posséder la puissance atomique. Ils ont été assez heureux pour échapper aux ultimes coups de boutoir de l'Empire finissant et ne trouver devant eux qu'une troupe anarchique de seigneurs de la guerre sans cervelle qui ne pouvait opposer aux engins atomiques de la Fondation que d'énormes rafios sans valeur et des reliques dépareillées. Mais le mulet, mon cher Merus, a changé tout cela. Il a répandu à travers la galaxie la connaissance que la Fondation avait jalousement gardée pour elle et l'a privée à tout jamais de son monopole scientifique. Nous sommes de taille à les affronter.
Et la seconde Fondation ? Demanda froidement Merus.
La seconde Fondation ?
Répéta Stettin non moins froidement.
Connaissez-vous ses intentions ? Il lui a fallu 10 ans pour mettre un terme aux exploits du mulet, à supposer qu'on puisse lui en attribuer le mérite, ce dont je doute. Savez-vous que bon nombre de psychologues et de sociologues de la Fondation professent l'opinion que le plan Seldon a été complètement démantelé depuis le règne du mulet ? Si le plan a vécu, il existe un vide que nous devons combler tout autant que quiconque.
Ce que nous savons en la matière est insuffisant pour que nous prenions le risque d'entreprendre une telle partie.
Ce que nous savons, peut-être. Mais nous avons en ce moment sur la planète un visiteur en provenance de la Fondation. Le saviez-vous ? Un certain Omir Mun, qui, si je suis bien informé, a rédigé des articles sur le mulet et qui a exprimé exactement la même opinion. Le plan Seldon a cessé d'exister.
Le Premier ministre hocha la tête.
J'ai entendu parler de lui, ou du moins de ses écrits. Que désire-t-il ?
Il sollicite l'autorisation de pénétrer dans le palais du mulet.
Vraiment ?
Il serait sage de refuser. Il n'est jamais très judicieux de troubler les superstitions qui permettent de tenir en main une planète. J'y réfléchirai. Mais nous en reparlerons.
Merus s'inclina et prit congé.
Minou, tu es fâché contre moi ?
Demanda Dame Kalia en larmes. Stettin se retourna vers elle avec fureur.
Ne t'ai-je pas défendu de me donner ce nom ridicule en présence d'un tiers ?
Tu l'aimais bien, ce surnom, autrefois.
Eh bien, je ne l'aime plus, voilà ! Et je te défends de recommencer.
Il la fixait d'un regard noir. Il se demandait par quel mystère il supportait encore sa présence. C'était un être tendre, sans cervelle, agréable au toucher, témoignant à son égard d'une affection docile qui offrait certains avantages, contrastant agréablement avec la rude existence qu'il était obligé de mener en raison de ses fonctions. Et pourtant, cette affection commençait à lui peser. Elle rêvait de mariage désormais. Elle ambitionnait de devenir la première dame de Kalgan.
Ridicule.
Une femme pareille passe encore lorsqu'il n'était qu'amiral. Mais aujourd'hui qu'il était devenu le premier citoyen et un futur conquérant, il lui fallait davantage. Il voulait des héritiers qui pussent servir de trait d'union entre ses futurs dominions. Cela, le mulet n'avait jamais pu l'avoir. C'est bien pourquoi, au terme de l'existence étrange et inhumaine qu'il avait menée en solitaire, son empire s'était éteint à son tour. Lui, Stettin, avait besoin d'un rejeton issu des grandes familles historiques de la Fondation qui lui permettrait d'opérer la fusion des dynasties. Il s'interrogea pour découvrir la raison qui l'empêchait de se débarrasser de Kalia sur le champ. L'opération se ferait sans douleur, elle pleurnicherait un peu, mais il chassa cette idée. Après tout, elle avait ses qualités à un certain moment.
Kalia retrouvait peu à peu ses esprits. L'influence de Barbe Grise avait disparu. Et le visage de granit de son minou s'adoucissait. D'un seul et même élan d'une fluidité imparable, elle se souleva de sa couche et répandit sa délicieuse corporalité dans sa direction.
« Tu ne vas pas me gronder, n'est-ce pas ?»«
Non. » Et il lui donna machinalement quelques tapes amicales.
« Maintenant, tiens-toi tranquille un moment, veux-tu ? J'ai besoin de réfléchir. »«
C'est à propos de l'homme de la Fondation ?»«
Oui. »
« Minou. »
Elle sembla hésiter. « Qu'y a-t-il ?»«
Minou.
Cet homme est accompagné d'une petite fille. C'est toi qui l'as dit, tu te souviens ? Pourrais-je la voir lorsqu'elle viendra ?
Je n'ai jamais... »«
Pourquoi voudrais-tu que je lui demande de se faire accompagner de cette gamine ? Veux-tu que je transforme ma salle d'audience en salle de classe ? Cesse de dire des sottises, Kalia. » !»«
Mais je m'en occuperai, Minou. » Tu n'auras pas à te soucier d'elle. C'est que je ne vois jamais d'enfants, et tu sais pourtant combien je les aime. »
Il lui lança un regard chargé d'une noire ironie. Une fois de plus, elle revenait à la charge. Décidément, elle ne se lasserait jamais. Elle aimait les enfants. Ses enfants à lui, oui, ses enfants légitimes. Une façon détournée de lui demander le mariage. Il se mit à rire. «
La gamine en question, dit-il, est une grande fille de 14 ou 15 ans. Elle a probablement la même taille que toi. »
Kalia sembla profondément déçue.
« Tant pis. Pourrais-je quand même la voir ? Elle pourrait me parler de la Fondation. Il y a si longtemps que j'ai envie d'y faire une visite, tu le sais. « Mon grand-père était membre de la Fondation. »«
Tu voudras bien m'y conduire un jour, » dit Minou.
Cette idée redonna le sourire à Stettine.
« Qui sait ? Peut-être en conquérant ?»
Sa réponse se ressentit de la bonne humeur où l'avait mis cette perspective.
« C'est entendu, nous irons. Et tu pourras voir la fillette et lui poser toutes les questions que tu voudras sur la Fondation. Mais loin de moi, c'est compris ?
Je ne t'ennuierai pas, promis. »
Je la ferai venir dans mes appartements. »
De nouveau, elle était heureuse. Il était bien rare à présent qu'il accédât à ses caprices. Elle entoura son cou de ses bras et, après la plus légère des hésitations, elle sentit les tendons de son cou se détendre et la grosse tête vint s'appuyer contre son épaule.